carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Jacques-Louis Binet, correspondant de l'Académie des Beaux-Arts.
Alors bonjour, j'ai la chance de vous présenter aujourd'hui un invité, Christophe Degers. Et c'est un singulier invité puisqu'il est professeur d'anatomie à l'école de Maisons-Alfort et que malgré, avec et en plus de son métier, il a recréé, on peut dire, parce que le musée était dans un triste état, il a refait, il a rénové totalement le musée de Maisons-Alfort. Et je vous conseille cet été d'aller le voir parce que vous verrez des pièces uniques avec des références, et c'est peut-être l'essentiel de ce musée, qui font appel à la fois à la science humaine, à la science animale, et aussi quand même à la représentation de cette époque, c'est-à-dire à la peinture. Donc, un immense sujet de référence. Alors, Christophe Degers a l'air d'avoir 20 ans, il est un peu plus, mais pas tellement. Il est professeur d'anatomie à l'École nationale de Maisons-Alfort. Comment, au cours de vos études, vous avez choisi l'anatomie ?
Oui, c'est tout à fait fortuit. Il s'est trouvé que on m'a proposé un poste d'assistant en anatomie comparée à l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Et puis, une année après mon arrivée dans cette école comme assistant, le directeur de l'époque, le professeur Parodi, m'a demandé de reprendre ce musée qui traditionnellement était tenu par un anatomiste depuis l'époque de Napoléon Ier. Donc je me suis retrouvé de fait enrôlé de force, je dirais, dans la gestion de ce musée, et j'y ai pris un très grand plaisir assez rapidement, même si j'ai hésité au début.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que vous m'aviez dit autrefois que vous aviez presque refusé en disant « j'ai déjà beaucoup de travail ».
C'est ça.
Et puis vous êtes laissé aller.
Voilà,
et heureusement.
Exactement.
Et heureusement, parce que grâce à vous, on peut suivre votre travail, et vous avez fait de ce musée un musée national. C'est bien ça.
C'est ça, c'est un musée qui est sous tutelle de l'État et qui est même musée de France, c'est-à-dire que l'État reconnaît un très haut niveau de qualité, de gestion et de tenue des inventaires et répond aux normes les plus strictes. Et il dépend directement du ministère de l'Agriculture. C'est le seul établissement muséal du ministère de l'Agriculture.
Alors, on va voir ensemble qui est un héros de ce musée. Il y en a beaucoup. Mais on va en prendre un qui s'appelle Honoré Fragonard, qui est le cousin du peintre, qui est très connu. Ils sont nés la même année, tous les deux à Grasse, mais ils ont eu des destins tout à fait différents. Et puis, cet Honoré Fragonard a eu des problèmes avec celui qui allait devenir le directeur de l'école, qui s'appelait Claude Bourgelat. Donc, Honoré Fragonard, il naît à Grasse en 1731. Son père est gantier parfumeur, mais il meurt tôt. Et lui, très vite, a une formation de chirurgien, singulièrement d'abord de chirurgien à Grasse, puis des vraies études à Lyon. En 1776, il revient à Grasse, il devient maître chirurgien. Et en 1759, il a 27 ans, il reçoit son brevet et il est admis dans la Corporation des chirurgiens. Il va mourir en 1799. Il faut savoir que les chirurgiens à cette époque avaient été méprisés 40 ans avant. Et c'est Louis XV qui s'est beaucoup attaché aux chirurgiens. Et si vous passez devant l'ancienne faculté de médecine, vous verrez, soi-disant, une femme qui montre son bras, qui donne à l'État ce lieu qui est devenu la faculté de médecine, en fait, c'était le bras de Louis XV. Louis XV a créé, avec un très bon architecte, la faculté de médecine, ce qu'on appelle l'ancienne. Maintenant, il y en a une nouvelle. Donc, époque heureuse pour la chirurgie. De l'autre côté, l'autre personnage s'appelle Claude Bourgelat. Il est beaucoup plus jeune. Il est né en 1712. Il est plus ou moins aristocrate. Et il est très lié, d'abord, au cheval, puisqu'il devient grand écuyer de Lyon, il s'occupe beaucoup des haras. Il écrit en 1768 un précis anatomique du corps du cheval. Il écrit dans l'encyclopédie, et grâce à ses 227 articles, il devient l'ami d'Alembert. Il écrit un livre qui s'appelle « Éléments d'hypiatrie ». Il devient inspecteur des haras du Lyonnais, donc quelqu'un de la noblesse. Plus vieux que Fragonard, il lui prend d'ailleurs à Fragonard quelques dessins pour son traité, je ne sais pas, son précis d'anatomie, sans trop dire que c'est lui. Et puis il se bat parce qu'il sent qu'il faut créer une profession qui n'existait pas pour devenir vétérinaire. Et en 1762, avec beaucoup d'appui du milieu, nous sommes au siècle des Lumières, au milieu de tous ces intellectuels, il crée l'école de Lyon, qui fut la première école vétérinaire de France. Et, je ne sais pas trop comment, il rencontre, ou Fragonard le rencontre, Fragonard est beaucoup plus jeune que lui, et lui, dès l'école de Lyon, il devient à la fois professeur et démonstrateur d'anatomie en 1763. Donc, rencontre de deux hommes. L'un est noble, intellectuel, riche, l'autre est beaucoup plus modeste, et c'est lui qui va créer le musée. Alors, ensuite, ils se déplacent l'un et l'autre à Maison Alfort. Maison Alfort, deuxième école vétérinaire de France, Maison Alfort, elle est créée, elle, en 1766, selon les plans d'un immense architecte qui s'appelle Soufflot. C'est lui, vous savez, qui va créer à Paris ce qui est devenu le Panthéon. Et Fragonard est à la fois responsable de l'anatomie, du jardin, des matières médicales. Et il profite, il faut bien le dire, d'un extraordinaire environnement très favorable à l'anatomie. L'anatomie devient non plus tout à fait un plaisir de riche, mais une méthode scientifique. Donc, très vite, à Maison Alfort, pas lui, mais Bourgelat nomme comme professeur d'anatomie comparée un grand médecin, Vic d'Azyr, et il nomme un grand scientifique, Daubenton, comme histoire naturelle des animaux. Donc, voyez, il profite d'une immense expansion de l'anatomie, et quand il va se disputer, c'est normal, deux générations, deux travaux différents, Bourgelat ne faisait pas de préparation, il n'enseignait pas. Mais il était très séduit par ce que l'autre faisait. Ils ont commencé à se disputer, d'autant que l'un avait pris les œuvres de l'autre. Donc, en 1771, c'est Bourgelat qui fait renvoyer Fragonard. Et quand on voit les candidats qui se présentaient pour le remplacer...
Ces candidats, c'est pour le remplacement de Fragonard après sa mort à l'école de santé en 1799.
Ah oui.
Donc en 71, quand il est remplacé par un de ses élèves. Tout
il est remplacé par un de ses élèves. Mais pour vous montrer l'importance qu'il avait pris dans l'école de santé dont on va parler, eh bien, les noms sont ceux des grands médecins de l'époque. Bichat, qui le premier va essayer de dire qu'est-ce que c'est qu'une maladie. Larrey, le chirurgien qui ne va pas quitter Napoléon dans toutes les batailles, Dupuytren, qui fut un très très grand médecin et qui fut dans cette école d'anatomie chargé des préparations. Alors, pour Fragonard, de 71 à 92, dans votre livre, vous avez écrit un livre très intéressant qui s'appelle simplement « Honoré Fragonard et ses écorchés ». Dans votre livre, vous dites qu'en 1771 et 1792, on ne trouve rien. On ne trouve pas très bien ce qu'il fait. On sait qu'il vit dans le privé, il vit à Paris, mais son nom va ressortir en 1792, dans la période révolutionnaire, et contrairement à son patron d'ailleurs qui était mort à ce moment-là, il devient un révolutionnaire. Il est soutenu par David, dont on connaît l'importance dans les comités révolutionnaires, et c'est David qu'il nomme membre du jury national des arts, avec comme suppléant Vic d'Azyr, vous voyez qu'on tape haut. À ce moment-là, grande discussion de ces commissions révolutionnaires pour un projet du Musée national d'anatomie et qui n'aboutit pas. On veut réunir tout ça, mais ça ne marche pas très bien. Et toujours est-il que Vic d'Azyr désigne Fragonard pour faire un inventaire du cabinet d'Alfort. C'est-à-dire, Vic d'Azyr voulait qu'il y ait un inventaire général de tout ce qui s'était créé en matière de science. Eh bien, il désigne Fragonard pour faire l'inventaire du cabinet d'Alfort, et donc il revient, un peu glorieux, à Alfort. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la collection. Et avant de parler de la collection, je voudrais que vous nous expliquiez la technique de préparation, comment on passait, parce que ce qu'on voit, ce sont des momies, ce sont des vrais corps, c'est pas du plâtre, c'est pas de l'argile, c'est notre corps, c'est un corps humain. Alors, comment passe-t-on d'un corps humain à ces préparations que vous avez faites?
La technique, c'est la momification. C'est très proche.
Momification, répétez, c'est un mot compliqué.
La momification, c'est-à-dire qu'on connaît bien dans la culture égyptienne, qui est une momification chez les Égyptiens par le sel. Fragonard utilise une technique de momification qui est assez similaire, qui est très classique au XVIIIe siècle, qui consiste à déshydrater les corps au moyen de l'alcool, tout bêtement. Alors la recette, c'est une vraie recette de cuisine. C'est-à-dire qu'on cherchait des corps de personnes jeunes, si possible, maigres, si possible. Donc, les personnes qui étaient mortes de longues maladies étaient des candidats tout désignés. On amenait le corps dans la salle de dissection. Il fallait qu'il soit, bien sûr, le plus frais possible. On ouvrait le thorax, on abordait le cœur et on posait des canules dans les ventricules pour injecter des masses d'injection, c'est ainsi qu'on les appelait.
C'est-à-dire de l'eau salée ?
Non, pas de l'eau salée, c'était de la cire, des mélanges de graisse de mouton, de sein doux de porc, avec des pigments qui permettaient de marquer les artères en rouge et de marquer de la même façon les veines en bleu. Une fois qu'on avait fait ça, le corps avait donc ses vaisseaux à l'intérieur qui étaient révélés par ces substances qui les remplissaient. Il suffisait de disséquer le corps, puis une fois qu'il était disséqué, de le plonger dans de l'alcool pendant quelques jours, pour que l'eau parte dans ce mélange d'alcool et que finalement on récupère un corps d'apparence humide, mais en réalité totalement alcoolisé. Dès lors, on le sortait, on le mettait à l'air libre, l'air faisait son effet, l'alcool s'évaporait très rapidement et on récupérait un corps complètement desséché et pratiquement inattaquable par les vers, pour parler simplement. Il fallait ensuite le vernir pour le garantir de ce qu'était la peste des collections anatomiques, à savoir les larves d'insectes, qui avait le dermeste du lard, qui a tant traumatisé nos ancêtres car ils consommaient la viande séchée, salée, qui était un des rares moyens de conservation de la viande à ces époques-là. Et ils consommaient de la même façon qu'ils consommaient le jambon, ils consommaient les écorchés. Les écorchés disparaissaient en à peu près 10 ans à 15 ans maximum.
Alors comment se fait-il que ceux de Fragonard soient toujours là ?
Alors c'est les seuls écorchés du XVIIIe siècle qui soient encore parmi nous, alors qu'ils ont été produits par milliers, et le secret, c'est le vernis qui les recouvre, qui est un vernis jaune, tout à fait similaire au vernis des peintres du XVIIIe siècle, et qui est fait de térébenthine de Venise, c'est la résine du mélèze qu'on prélevait dans les Alpes, et qui protège ces pièces de l'attaque des insectes.
Nous avons insisté sur la méthode, parce que c'est quand même fascinant de voir ce qui s'est passé, et comment ces momies sont aussi bien conservées, et vous les verrez, vous devez les voir, au musée de Maisons-Alfort. Alors, il y a beaucoup de pièces. Je vais commencer par une des plus impressionnantes qui s'appelle « L'homme à la mandibule ». C'est-à-dire, c'est un homme préparé selon les méthodes que vous venez de décrire. Je crois qu'il est plus ou moins accroché, il est vertical.
Il est maintenu.
Il est maintenu par
des filins, oui.
Et il tient dans sa main une mandibule d'animal. De quoi ?
Mais d'âne, concrètement.
D'âne.
C'est une référence directe à une scène biblique, c'est Samson se battant contre les Philistins avec sa mâchoire d'âne. Il y a un petit côté curieux à voir une scène biblique représentée par un corps véritable. Or, vous savez qu'à l'époque, si l'Église n'interdisait pas l'usage de l'anatomie, elle ne le favorisait pas, car on peut imaginer que ce corps a été distrait à l'attention de ses proches pour pouvoir être mis en scène.
Ce qui est vrai, ce qui est une évidence. C'était surtout un corps de quelqu'un de très pauvre.
Voilà.
Alors, en plus, ce personnage est terrorisant. Il était terrorisant. Les yeux sont en faïence.
C'est de la porcelaine peinte.
C'est de la porcelaine. La mâchoire est tordue. Il fait la gueule. Il nous terrorise.
Il a le visage complètement déformé par la violence qu'il exprime avec ce regard dévié qui vous jauge comme ça en hauteur. Oui.
Autre série très originale pour l'époque. On ne s'intéressait pas du tout aux fœtus. C'est la série des fœtus. Et il y a une série de fœtus qui sont là, de tous les âges, plus petits, plus grands, et qui permettait-elle d'étudier, encore une fois, ces œuvres avaient une vertu pédagogique. C'était pour apprendre aux vétérinaires. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que la référence, c'est pour le moment, j'ai pas encore parlé d'animal, c'est l'homme, parce qu'on connaissait mieux l'homme que l'animal.
Tout à fait, hein, l'animal était à découvrir à l'époque.
Alors là, il y a 3 ou 4, mais dans la photo qu'on voit dans votre livre, il y en a 3, fœtus d'âges différents, où on voit le développement, puisque les organes sont les mêmes, mais ils sont un peu différents en fonction de leur âge. Les crânes de 2 fœtus sont ouverts, l'un n'est pas ouvert. Autre série, des bustes. Les bustes sont assez impressionnants et assez dignes, parce qu'ils ressemblent à des sculptures.
Exactement, il a posé les corps, et notamment il a fait un regard ascendant vers le ciel, entre guillemets, qui leur donne une certaine paix intérieure.
Et le menton est relevé. Ce sont des seigneurs, hein. Ils ne se plaignent pas. C'est fini. C'est plus l'homme à la mandibule. Ce sont des seigneurs qui gardent leur souvenir. Alors, autre partie, plus facile peut-être, et plus médicale, ce sont les membres. Alors, les membres, on a tout ce qu'on veut. On a la main, on a la jambe, on a les bras, on a les avant-bras. On a tout ce qu'on veut et on reste dans le monde de l'humain. Alors, quand même, nous sommes à Maisons-Alfort. Je sais bien que nous ressemblons tous à des animaux, mais enfin, les ressemblances ne sont pas totalement évidentes. Alors, il y a autre chose. Il y a un ilgo, je ne sais pas du tout ce que c'est.
C'est une antilope indienne, c'est l'antilope qu'on appelle l'antilope des Maharajas. C'est une grande antilope. Oui.
Il y a bien sûr des moutons, un lus de moutons. Et puis alors, il y a une série un peu folklorique de singes.
Oui, parce que c'était traditionnel à l'époque d'avoir ce type de petits singes verts qu'on trouvait généralement sur les marchés. Oui.
Dans des positions qui voudraient nous amuser. Et puis, la pièce maîtresse, et je l'ai laissée en dernier, s'appelle Le Cavalier, parce que c'est vraiment alors la grande originalité de ce musée. Et ça en monte l'essence, c'est-à-dire deux, on va appeler ça deux écorchés, deux vivants d'autrefois, un homme sur, non pas un cheval, mais un poney. Comme l'homme est petit, le cheval paraît grand, et le poney paraît grand, et le tout s'accorde. Et ça, c'est très impressionnant. Le cheval marche, je crois même qu'il est au galop.
Oui, c'est pas un galop académique, car à cette époque, on ne connaissait pas le galop.
Ah oui, on ne connaissait pas le galop. Enfin, on voudrait qu'il marche vite.
C'est ça.
Disons. Bon. Et puis, il y a tous les muscles, en particulier tous les muscles du cou. Et l'homme, eh bien, l'homme est là, au milieu, assez serein. Les deux mains, comme étaient ceux des cavaliers, beaucoup plus serein que l'homme à la mandibule, avec les mêmes yeux en porcelaine, mais lui a retrouvé vraiment une dignité. Alors ça, c'est vraiment, à mon avis, le vrai symbole de ce musée, c'est l'accord de l'homme et de l'animal, superbe sculpture qui s'appelle le cavalier. Et dans le peu de temps qui nous reste, je voudrais qu'on s'interroge tous les deux sur la signification de ces œuvres, parce qu'encore une fois, nous sommes dans un musée. La signification médicale, c'est quand même, et elle est très connue maintenant, c'est quand même l'unité de l'homme et de l'animal. Ce qui est intéressant, c'est que l'homme sert de référence à l'animal. Maintenant, en embryologie, c'est le contraire. Bon, et dans l'évolution, bien évidemment, c'est le contraire. Eh bien, première signification que j'appelle médicale, l'homme est la référence. Deuxième signification qui est très importante, c'est qu'à ce moment-là, l'anatomie se cherche. C'est-à-dire qu'on montre les muscles, on commence à connaître leurs fonctions, mais pas très très bien, et l'anatomie, et on fait au fond de la description. Or, 20 ans après, quand on sort du siècle des Lumières, l'anatomie va se diriger dans deux perspectives très différentes. Premièrement, la fonction, à quoi sert un muscle, à quoi sert un os, pourquoi il tourne, dans quel angle il peut tourner, et puis la maladie, qu'on appelle l'anatomie pathologique. Et ça, c'est la naissance de la médecine. La médecine est née avec Bichat, qui avait voulu succéder à un concours ou après la mort de Fragonard. Donc, il était très impliqué dans les corps. Mais Bichat était médecin. Il avait fait beaucoup d'autopsies. Et c'est lui qui a dit, arrêtons de lire les latins, oublions Hippocrate. Et quand vous avez une maladie, vous examinez le malade meurt 3 jours après, disséquez le corps et vous trouverez la maladie. Ça a été sa grande découverte, la découverte de l'anatomie pathologique, la relation de la maladie dans le corps humain. Et puis, laissons-nous un peu aller. D'abord, qu'est-ce que provoquent ces écorchés? À mon avis, il y a deux sentiments qui sont un peu mêlés. D'abord, quand même, un certain sentiment de répulsion, parce que les corps, c'est nous. Alors, ils sont tellement transformés, peints dans des positions glorieuses ou moins glorieuses, que ça part un peu, mais enfin, quand même. Et ils ont été exposés, ce qui, personnellement, me choque un peu, dans des foires. Ils ont, à la fois, ils attirent et la répulsion. Vos visiteurs ont les mêmes sentiments que ceux que je résume ici?
Globalement, les gens trouvent ça beau. C'est-à-dire qu'il y a une dimension esthétique qui les étonne. Il y a quelques personnes qui y éprouvent une répulsion. Alors, c'est très rigolo parce que les enfants sont totalement insensibles à la dimension de la dépouille mortelle, entre guillemets, alors que les personnes plus âgées sont très inquiétées par ces corps. La dernière chose, il y a une autre dimension qu'on ne suspecte pas, mais moi que je vis tous les jours, c'est qu'ils sont là depuis 1766. Le cavalier, les bons de commande du cavalier commencent en 1765. Ça veut dire que j'ai des photos de moi depuis 20 ans, à côté de cet écorché, lui ne bouge pas et moi, je change.
Non, vous avez une gueule de jeune homme. Arrêtez.
Et il y a une évolution, ils sont figés dans la mort. C'est-à-dire qu'il y a un concept d'éternité qu'il véhicule et qui est très particulier.
Concept d'éternité et beauté. Alors, continuons à délire un peu. C'est de mettre ça en relation avec l'art, A-R-T, et en particulier avec Géricault. Géricault fut l'homme des chevaux. Bon, et pourquoi pas, vous savez que maintenant dans les musées, même actuellement au Louvre, on fait très souvent référence d'un peintre ancien et d'un peintre moderne. Pourquoi pas, non pas le Fragonard qu'on connaît, qui portait le même prénom, malheureusement. Mais il avait quelque chose, il s'appelait non pas Honoré, mais Jean Honoré, je crois,
le peintre. C'est ça, il y a un Jean.
Donc il est au... Mais pourquoi pas, lui, Honoré Fragonard, tout court au Louvre, face à Géricault. Et dans Géricault, les sentiments que vous venez d'exprimer sont exprimés sur ces tableaux. Il y a le Géricault qui commence, où il y a ces deux hommes à cheval, l'officier de chasseur de la garde impériale qui charge, 1812, et en parallèle, mais deux ans plus tard, pas le même, mais quelque autre officier, le cuirassé blessé, quittant le feu, 1814, où les deux tableaux sont peints dans même dimension. Et puis, il y a un autre tableau que personnellement, pour lequel j'ai toujours été fasciné, qui est le radeau de la Méduse, puisque dans le radeau de la Méduse, Géricault montre tous les intermédiaires entre la mort et la vie. Et l'obsession des cadavres, comme vous, mais vous, vous avez des momies, c'est moins dur que le cadavre. Donc le bateau, le radeau, est entouré de cadavres qu'il allait chercher chez Bichat. Et puis en haut, l'espoir. En haut, il y a deux ou trois personnages qui agitent une écharpe ou quelque chose et qui espèrent voir ou qui voient ou qui ne voient pas le bateau qui va les sauver. Alors, toute cette ambiguïté, eh bien, c'est l'honneur de votre musée. Parce que vous êtes entre la médecine bloquée un certain temps. La fin du siècle des Lumières n'est pas tellement glorieuse pour la médecine. La gloire, ça va être le début du 19e. Mais là, on cogne à la porte de la gloire, mais on n'y arrive pas. Et puis, cette double impression que vous nous avez décrite, celle des enfants qui sont fascinés, celle des gens moins jeunes comme moi, qui sont, mais moi je suis médecin donc je suis déformé complètement, mais qui ont un certain sentiment de crainte, et puis quand même pour nous tous, je crois que c'est ce que vous avez dit, ce sentiment de beauté, et qui a été exprimé par beaucoup de peintres, et surtout 20 ans après, c'est pas très long, 20 ans après, par Géricault. Eh bien écoutez, allez voir ce musée, je remercie pour vous le conservateur qui continue à enseigner la médecine. Nous sommes arrivés, j'étais en retard, lui était à l'heure, mais il venait de faire un cours. Moi, je n'avais pas fait de cours ce matin. Donc, remercions Christophe Dugers qui a créé ce musée, qui l'a transformé. Vous verrez que ce n'est pas du tout un vieux musée, c'est un très beau musée moderne. Et dans l'architecture de Soufflot, ça fait beaucoup de choses. Voilà, merci d'être venu.
Merci bien.
Et retournez tous au musée de Maison-Alfort.